C'était la crise. Vous vous souvenez? Cela se passait jadis, il y a une éternité, l'année dernière. La crise. On ne parlait que de ça, mais sans savoir réellement qu'en dire, ni comment en prendre la mesure. On ne savait même pas où porter les yeux. Tout donnait l'impression d'un monde en train de s'écrouler. Et pourtant, autour de nous, les choses semblaient toujours à leur place, apparemment intouchées. Je suis journaliste. J'ai eu l'impression de me retrouver face à une réalité dont je ne pouvais pas rendre compte parce que je n'arrivais plus à la saisir. Les mots même m'échappaient. Rien que celui-là, la crise, me semblait tout à coup aussi dévalué que les valeurs en bourse. J'ai décidé de partir dans une ville française où je n'ai aucune attache pour chercher anonymement du travail. La ville de Caen m'a semblé la cité idéale. Ni trop au nord, ni trop au sud, ni trop petite, ni trop grande. Elle n'est pas non plus très éloignée de Paris, ce qui semblait pouvoir m'être utile. Je ne suis revenue chez moi que deux fois, en coup de vent. J'avais trop à faire là-bas. J'ai loué une chambre meublée. J'ai conservé mon identité, mon nom, mes papiers, mais je me suis inscrite au chômage avec un baccalauréat pour seul bagage. J'affirmais m'être tout juste séparée d'un homme avec lequel j'avais vécu une vingtaine d'années et qui subvenait à mes besoins. Ce qui expliquait pourquoi je ne pouvais justifier d'aucune activité professionnelle durant tout ce temps-là. Je suis devenue blonde. Je n'ai plus quitté mes lunettes. Je n'ai touché aucune allocation. Avec plus ou moins de certitude et d'insistance, de rares personnes se sont arrêtées sur mon nom. J'ai nié être journaliste et plaidé l'homonymie. Les choses en sont restées là. Une seule fois, une jeune femme dans une agence d'intérim m'a démasquée dans les règles de l'art. Je lui ai demandé de garder le secret, ce qu'elle a fait. L'immense majorité de ceux et celles que j'ai croisés ne m'ont pas posé de questions. J'avais décidé d'arrêter le jour où ma recherche aboutirait, c'est-à-dire celui où je décrocherais un CDI. Ce livre raconte cette quête, qui a duré presque 6 mois, de février à juillet 2009. Les noms des personnes et des entreprises ont été volontairement modifiés. À Caen, j'ai gardé ma chambre meublée. J'y suis retournée écrire ce livre. Florence Aubenas.
Le quai de Ouistreham, de Florence Aubenas. Adaptation Nadine Egels. Premier épisode.
Je cherchais du boulot depuis 15 jours. Une éternité, me semblait-il. Les journées s'étiraient, molles, irritantes à force d'attente, sans qu'aucune démarche paraisse devoir aboutir. Alors j'ai fait le tour des agences d'intérim de Caen. Elles se concentrent dans quelques rues autour de la gare et sont presque toutes construites sur le même modèle. Une pièce vide, avec un comptoir. L'une après l'autre, les agences refusent de prendre mes coordonnées. On me traite avec une douceur d'infirmière dans un service de soins palliatifs, mais fermement. Les questions tombent, toujours les mêmes. Est-ce que j'ai une expérience dans l'intérim? Non. Est-ce que j'ai au moins une expérience quelconque et récente à Caen? Non et non.
Alors, vous ne pouvez pas être classé parmi les personnes très très sûres. Les risques zéro. Aujourd'hui. Les risques zéro sont les seuls auxquels les employeurs font appel pour l'intérim. On a un fichier spécial pour ça, même pour des remplacements de 24 heures à l'usine de steak haché.
Dans une autre agence, je ne renonce pas à défendre mes chances pour un poste affiché dans la vitrine. Vente, conseil dans le domaine des bêtes, vivantes et inertes, au rayon animalerie d'une grande surface en périphérie de Caen. L'employé de l'agence est presque choqué.
Cette offre-là propose une très belle situation. On la considère comme le dessus du panier. Ça vous correspond pas du tout.
Comment ça?
Bah, vous êtes plutôt...
Je le vois chercher un mot qui, sans être blessant, serait tout de même réaliste. Il a trouvé et fait un grand sourire.
Vous êtes plutôt le fond de la casserole, madame.
C'est dit sans méchanceté, avec bonhomie. Ma naïveté m'apparaît brusquement. Avec davantage de résolution que d'expérience, je suis venue à Caen chercher un emploi persuadée que je finirais par en trouver un, puisque j'étais prête à tout. J'imaginais bien que les conditions de travail pourraient se révéler pénibles, mais l'idée qu'on ne me proposerait rien était la seule hypothèse que je n'avais pas envisagée. J'essaye encore l'agence d'intérim en face. Une jeune fille, cette fois, presque une lycéenne, secoue la tête.
Vous n'y arriverez pas. C'est trop dur. Il faut quelqu'un pour vous mettre le pied à l'étrier. Si vous avez du piston, je peux tenter de prendre votre dossier. Est-ce que vous avez des relations ici ?
Non, je ne connais personne à Caen. Au revoir, je repasserai.
Non, je vous l'ai déjà expliqué, ça n'est pas la peine de repasser. S'il vous plaît, madame.
C'est Pôle emploi qui m'a proposé de devenir femme de ménage. Tout s'est passé très vite, sans que je m'en rende vraiment compte. Je m'étais officiellement inscrite au chômage au début du mois de mars 2009, sans idée arrêtée. Plusieurs offres me seraient faites, forcément. J'aurais le temps de les soupeser avant de me décider. En tout cas, je voyais les choses comme ça. Dès mon premier entretien, au bout d'une douzaine de minutes, une conseillère m'a annoncé sur un ton raisonnable
« La meilleure solution pour votre projet personnalisé d'accès à l'emploi est de vous orienter vers la spécialité d'agent de nettoyage. »
Au moment où je m'entendais répondre « oui », j'avais déjà la main de la conseillère dans la mienne. Elle l'a secouée fermement, tout en me reconduisant vers la sortie. Ça y est, c'était fait. Vers 10h45, le jour de mon inscription, nous sommes une quinzaine à attendre dans un des 8 sites Pôle emploi de Caen. Il y a du monde, mais pas de bruit. Un calme soucieux, épais, presque palpable, qui amplifie chaque son. Chaque chose semble conçue pour créer une sorte d'inconfort neutre, où rien n'invite à s'installer, ni même à s'attarder au-delà du temps strictement indispensable aux formalités. La pièce est un grand hall qui sert à la fois de comptoir d'accueil, de salle d'attente, de cabine téléphonique pour les démarches. On peut aussi y consulter les offres d'emploi sur des ordinateurs. Ces fonctions ne sont isolées par aucune paroi, et tout s'y fait debout, derrière des sortes de guichets à hauteur d'homme, si bien que les gens semblent flotter parmi les courants d'air, entre des murs aux couleurs banales, y compris les conseillers de l'agence. Eux non plus n'ont ni fauteuil, ni bureau. Chacun paraît éviter le seul endroit où il serait possible de s'asseoir, quelques chaises, soudées par des barres de métal, installées devant un écran. Diffusé en boucle, un film de Pôle emploi répète sur un ton de comptine
« Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Vous pouvez être ratié. »
Certains jours, il ne se passe rien. La file d'attente s'écoule sans heurts. D'autres fois, il arrive que quelqu'un explose soudain. Ce matin, c'est la femme juste avant moi. Elle commence pourtant posément.
« J'ai été convoquée pour un travail de cantinière. » Il s'agissait d'un contrat de quelques heures par jour dans une municipalité à côté de Caen. On m'a dit, vous êtes parfaite, vous aurez le poste en priorité. Puis plus aucune nouvelle. 2 mois plus tard, je reçois un appel pour me dire que finalement, une autre personne a été prise à ma place. Or, la personne me dit au téléphone que cette autre personne, celle qui a été prise à ma place, pas celle qui me téléphone, ne fait pas l'affaire. Et la première personne... Celle qui me téléphone. Elle me demande de me présenter à nouveau parce que finalement, c'est moi qui aurai le boulot.
Ici, on ne cherche pas les embauches. On s'occupe seulement de mettre en contact les employeurs et les demandeurs d'emploi.
Mais c'est ici que j'ai vu l'annonce. Donc vous êtes responsable. Je vais vous dire, moi, ce qui s'est passé. Quand cette autre personne a finalement claqué entre les doigts de la municipalité, ils se sont dit, on n'a qu'à recontacter le deuxième choix, la vieille, moi, quoi.
Je regarde le visage nu de la vieille. Son chignon tiré, son jogging de marque repassé avec un pli, sa main serrée sur un sac en vernis noir. Elle doit être bien plus jeune que moi. L'agent de Pôle emploi répète à la vieille qu'elle doit s'adresser à la municipalité en question. Mais rien ne semble plus pouvoir l'arrêter.
Finalement, ils ont pris une troisième personne. Mais qu'est-ce que j'ai de moins qu'elle, moi ? J'ai besoin de travailler.
Toute l'agence s'est arrêtée. La photocopieuse lance dans le vide des éclairs blancs et au fond de la pièce, des visages ont jailli un à un au-dessus des ordinateurs. On n'entend plus que les trilles des téléphones portables que personne ne décroche et la voix du film qui psalmodie
« Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Vous pouvez être radié. »
Hypnotisés, nous suivons tous des yeux comme la balle dans un match de tennis, le sac à main en vernis noir que la femme balance en moulinet saccadé. Un conseiller surgit d'un couloir. D'une voix forte et calme, il l'entraîne sur le côté, loin de la file d'attente. Le conseiller n'arrive à penser qu'à une chose. Et si elle était armée ? Il parle souvent de ça avec des collègues. Ils se disent qu'un jour, un drame va finir par arriver. Quelqu'un va entrer dans l'agence, leur casser la gueule ou leur tirer dessus. Ça fera un mort, ou peut-être plusieurs. Je suis reçue dans une pièce au bout du couloir. Mes documents d'identité sont photocopiés. On remplit des feuilles. L'essentiel de la discussion tourne autour de la meilleure manière de me rendre au premier rendez-vous d'orientation dans une antenne différente, à l'autre bout de Caen. Là, je serai aiguillée dans ma recherche d'emploi. Je dois m'y présenter l'après-midi même, au plus tard le lendemain matin. La procédure impose que l'écart entre ces deux formalités ne dépasse pas 24 heures. Ce sont les nouvelles règles de fonctionnement de l'administration. Tout doit se passer en temps et en heure pour ne pas engorger les statistiques. L'employé émet un rire discret.
L'administration a l'obligation d'être performante. Mais vous aussi, n'est-ce pas ?
Nous interrogeons votre pôle emploi. Veuillez patienter.
Un bus m'y dépose à 14h10 le même jour. Je suis dans les temps. L'agence se divise en petits box, chacun équipé d'un bureau et de deux chaises. Un jeu de fines cloisons les sépare les uns des autres, à la manière de paravent, sans monter jusqu'au plafond. Les rendez-vous ont lieu là, dans le bourdonnement des conversations et des allées et venues. Une conseillère me regarde approcher. En un après-midi, elle voit défiler une dizaine de nouveaux inscrits à qui il faut faire un bilan avant de les orienter. Autrefois, il n'y avait pas de limite à la durée de ces entretiens. Les consignes ont commencé à les restreindre à une demi-heure, puis à 20 minutes. Entre collègues, on parle d'abattage. Tout le monde renacle à assurer le poste. Mais les directives sont claires. Vous n'êtes plus là pour faire du social. Cette époque est finie. Il faut du chiffre. Apprenez à appeler « client » le demandeur d'emploi. C'est officiel, ça vient d'en haut. Le personnel de l'administration de l'emploi a longtemps été constitué avant tout de travailleurs sociaux. Désormais, le recrutement cible d'abord des commerciaux. Mettez-vous dans la tête que c'est un nouveau métier. Ce que vous avez connu n'existera plus, répètent les directeurs. Tout cela est impossible. Que va-t-il se passer ? La fonctionnaire soupire. Elle s'apprête à se lever pour m'accueillir, mais une autre s'est déjà avancée et me fait asseoir dans son box. Elle a le coup d'œil pour détecter le bon client, celui qu'elle va réussir à placer rapidement et qui ne viendra pas plomber la case fatale « chômage longue durée ». S'il y en a trop dans une agence, c'est l'engorgement. Les primes collectives sautent. Le bon client, donc, a un petit diplôme, une petite expérience, une petite voiture. On appelle ça le profilage.
Vous avez un véhicule ?
Non. Elle me fixe. Ça commence mal. La voiture, c'est le premier critère des employeurs, même pour des activités qui ne l'exigent pas. Ça vous situe quelqu'un. Ça prouve qu'on possède au moins de quoi mettre de l'essence, qu'on n'a pas peur de sortir de la ville, qu'on a un périmètre d'action important.
Femme seule ? Plus de 45 ans ? Pas de formation particulière ni de fiche de paye récente ?
Dans les yeux de ma conseillère, tous les voyants rouges clignotent. Je viens d'entrer dans la zone haut risque statistique. Elle tente une dernière question.
Et vous avez des enfants à charge ?
Non. Je la vois se détendre pour la première fois.
Qu'est-ce que vous voulez faire ?
Tout. Je pensais la réconforter sur mon sort, mais elle semble trouver ça normal. Elle parcourt mon CV, qui s'arrête au baccalauréat, suivi de l'évocation de quelques minces boulots de vendeuse ou serveuse. Puis, plus rien.
Qu'est-ce que vous avez fait depuis 20 ans ?
Je lui répète l'histoire que je raconterai à tout le monde, et qui me sert d'alibi. J'ai rencontré un homme qui m'a entretenue, puis laissé tomber. Je dois désormais recommencer à travailler. J'ai révisé plusieurs fois le scénario dans ma tête. Il m'a semblé astucieux. J'ai même inventé une profession à cet homme, au cas où les questions se feraient plus insistantes. Il était garagiste dans la région parisienne. Je m'apprête à dévider l'histoire, mais ma conseillère me coupe gentiment.
Comme tout le monde, quoi. Est-ce que vous voulez commencer une nouvelle vie ? Agent d'entretien ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Les métiers de la propreté, c'est l'avenir. Mais il faut se décider maintenant. Le marché est en pleine structuration, il va se refermer d'ici peu. Un cycle de formation des métiers de la propreté se met en place, avec un bac spécialisé, peut-être même un troisième cycle. Dans un an ou deux, les entreprises ne prendront plus que des femmes de ménage diplômées. Ce sera trop tard pour des gens comme vous sans qualification. Vous devez vous lancer maintenant, sinon vous n'aurez plus aucune chance.
J'annonce à ma conseillère que je suis tout à fait d'accord pour devenir agent d'entretien. J'ai droit à une formation d'une journée métier de la propreté, à un atelier curriculum vitae et à un accompagnement de ma recherche d'emploi pendant 3 mois par un cabinet privé, au titre de haut risque statistique. Une feuille indique que mes principales spécialités et conditions d'exercice sont le nettoyage courant des locaux et surfaces, le ramassage des papiers, le nettoyage des meubles et accessoires, la gestion et le suivi des travaux sur plusieurs sites. Je signe en bas. Je ne suis même pas restée un quart d'heure. Plus tard, certains de mes interlocuteurs me demanderont si j'ai été forcée d'accepter ce métier. Pas du tout. J'ai même éprouvé ce jour-là une immense gratitude pour cette conseillère.
Bonjour, Pôle emploi à votre service. Le 3949 est le numéro unique des demandeurs d'emploi et des actifs. Pour accéder directement à nos services, tapez étoile.
À Bayeux, il souffle un vent salé, mouillé de pluie. Je demande le chemin pour le Novotel où se tient le salon pour l'emploi. À l'entrée, tout ce que Bayeux compte comme demandeur d'emploi se bouscule en brandissant une lettre de convocation. Des offres sont placardées dès le hall sur de larges panneaux, surlignés de traits de toutes les couleurs, comme dans la vitrine d'un magasin. Un groupe fait déjà cercle autour de l'annonce la plus juteuse, l'orgueil du salon. Un poste de maçon, en contrat à durée indéterminée, pour 10 euros de l'heure. Les autres annonces proposent toutes des emplois au minimum légal, 8,71 € brut de l'heure, souvent pour de courtes périodes. Chaque poste est hérissé de restrictions, barbelé d'impératifs. Tous paraissent inaccessibles. Pour la place d'hôtesse d'accueil, un contrat de 6 mois au SMIC, il faut par exemple le bac spécialisé hôtesse d'accueil, 2 ans d'expérience au moins, un niveau bilingue anglais, un permis de conduire, la voiture qui va avec et une adresse à Bayeux. C'est mon tour de passer devant le recruteur. Il est 10 heures du matin, il paraît à cran.
Bon, nous avons une place de décoratrice de magasin pour voir.
C'est exactement ce que je recherche.
Pourquoi ?
J'adore tout ce qui est aménagement. Je crois que j'aurai beaucoup d'idées.
Pour nous, décoratrice, ça veut dire accrocher les affiches au plafond du magasin. Vous serez dans une nacelle à 8 mètres de haut, avec des tournevis. Vous avez le vertige ?
Non. J'adore l'escalade, le travail physique, les parcs d'attractions. Les nacelles, j'ai toujours trouvé ça romantique. Le type garde la tête obstinément orientée vers ses genoux, qu'il a eu du mal à caser derrière un tout petit bureau. Son stylo se pose sur sa feuille, prêt à écrire quelque chose, hésite, mais s'arrête sans prendre aucune note. Je n'arrive pas à croiser son regard.
Faut être sur place à 6 heures du matin.
Formidable. Ça m'arrange, je suis une lève-tôt.
Le stylo ne bouge plus du tout, suspendu très haut au-dessus du papier. Il dit qu'on me contactera peut-être, en appuyant lourdement sur « peut-être ». Enfin, il me fixe en fronçant les sourcils.
De toute façon, si vous ne répondez pas du premier coup, on téléphonera à quelqu'un d'autre. On ne peut pas se permettre de courir après les candidats.
Il montre la pile de CV sur son bureau. Des dizaines et des dizaines de questionnaires remplis. La pointe de son stylo désigne la sortie du stand. Je comprends que mon tour est passé.
Combien de CV vous avez déposé ce matin ?
6.
Bravo, vous avez gagné. Moi, j'en ai donné 5. Moi, c'est Philippe. Je peux voir votre papier ?
On échange nos vies et chacun lit celle de l'autre, debout dans l'allée, au milieu de gens qui nous bousculent. Nous retournons vers le hall où l'attroupement a encore grossi autour de l'annonce « maçon à plein temps ». Philippe relit mon CV comme s'il y cherchait quelque chose.
Mais vous êtes domicilié à Caen, vous n'êtes pas de Bayeux. Comment allez-vous faire pour déjeuner ? Je vous invite chez moi.
Il a les cheveux coiffés en arrière, un peu longs dans le cou, blonds et gris mélangés, et une chevalière avec une tête de loup. Philippe habite à côté de Bayeux, en bordure d'une autre rocade. L'appartement est étonnamment grand, 3 pièces au moins, meublé au plus simple. Une table, des chaises, un canapé. Il paraît plus nu que vide, avec ses fenêtres sans rideaux, ses sols et ses murs lisses. Je ne sais où m'asseoir, ni même où poser mon sac.
Tu viens d'emménager ?
Non, de divorcer.
Philippe cherche du travail depuis 6 mois. La conversation sur le sujet est rapidement évacuée.
J'ai déjà été en rade, mais j'ai toujours retrouvé. Toi, c'est ton premier chômage ? Tu vas voir, à partir du 2e, on a moins peur. On n'en meurt plus, on sait comment faire. À condition d'accepter de repartir de 0.
Il m'explique que tous les boulots lui plaisent, mais pas toutes les femmes. car Philippe cherche aussi une femme, et de cela, il est prêt à parler bien plus longtemps que de travail. Pour les deux, il a un atout.
Regarde-moi. Tu dois deviner ce que c'est.
Je le scrute. Aucune idée ne me vient, mais je n'ose pas le dire. Il rit, d'un bon rire retentissant.
Tu es timide ou tu ne vois vraiment pas?
C'est mon œil. Le gauche. Il est presque mort. Pour les employeurs, ça fait des points cotorep. Ils ont intérêt à me prendre à cause des abattements de charges pour ceux qui emploient des handicapés.
Et pour les femmes, c'est quoi l'atout de ton œil?
Ça donne le regard profond et mystérieux. Non? Tu ne trouves pas? En tout cas, plusieurs me l'ont déjà dit. Je voudrais que ma femme soit tout à fait comme toi. Avec la même figure, la même façon de s'habiller, la même façon de manger. Tu n'as pas une jumelle par hasard?
Immédiatement, je m'invente un mari avec lequel je vis à Caen.
Mais à ton mari, tu vas lui dire que tu as déjeuné où aujourd'hui?
Je vais lui dire que j'ai déjeuné avec toi. Il n'a aucune raison de se faire du souci.
Comment ça, aucune raison de se faire du souci? Un homme a toujours matière à se faire du souci.
En plus de son œil, Philippe a d'autres avantages qu'il est prompt à énumérer. Il peut par exemple emmener quelqu'un se promener le dimanche dans les musées de Bayeux. Le soir, il lui arrive de jouer à la belote avec des amis, et aussi au tarot. Mais il se sent tout à fait capable d'y renoncer pour une femme. Surtout au début, quand on est très amoureux. De toute façon, il y a des femmes qui aiment la belote et le tarot. Quand je lui dis que je dois m'en aller, il propose de me ramener directement à la gare. En bus, bien sûr.
Ne retourne pas au forum pour l'emploi, tu risques de te faire draguer. Il y a plein de mecs qui y vont que pour ça, méfie-toi. Je te rappellerai. Ça aussi, tu peux le dire à ton mari.
C'était « Le quai de Ouistreham » de Florence Aubenas, adaptation Nadine Egels. Premier épisode avec Hélène Losseur et Régis Chaussard, Guillaume Vert, Fanny Richert, Sophie Gubry, Anne Canovas, Aude Chrétien, Sophie Dufouleur, Catherine Tartarin, Laurent Horry, Stéphane Varupen. Équipe de réalisation Olivier Dupré, Adrien Roch, Julie Guenet, Jean-Mathieu Zand. Le quai de Ouistreham est publié aux éditions de l'Olivier.
Excité, hystérique, je m'en vais aux acéniques, histoire de voir si je peux récolter du fric. Sale regard qui vient du guichet, mais qu'est-ce qui vient nous faire chier? Avez-vous tous les papiers? Le type s'installe, se racle la gorge.
Come on, boy.
Et le questionnaire commence.
Sécu, numéro de sécu.
Par cœur, je connais par cœur.
CV, fais-vous votre CV.
Aussi, je le connais aussi. J'ai tout le dossier de manuel. Facture de garde, relevé d'eau. J'ai mes feuilles de paie, quittance de loyer. J'ai tous les papiers.
Voilà, s'il vous plaît, vous pourriez pas me donner une allocation de base, vous voyez, 1000 francs minimum par mois, parce que moi, je sors du RMI, là, j'ai plus rien, là.
Non, vraiment,
et donc je.
Oh oui.
Non.
Dites-moi oui.
Non.
Oh oui. Dites-moi oui. Oh oui, 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 oui,
oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Qu'est-ce qui manque à mon dossier? Ça fait 5 fois que je reviens à chaque fois. On me dit revenez, vous manquez de papier. Mais là, qu'est-ce qui manque là? Dites-moi, expliquez-moi. Allez, allez, voilà. En fait, il manque rien, j'ai tout, regardez.
Sécu, numéro de sécu. Par cœur, je connais par cœur.
CV, fais-vous votre CV.
Aussi, je te connais aussi. J'ai tout le dossier de ma mutuelle. Facture de garde, relevé d'eau. J'ai mes feuilles de paie, quittance de loyer. J'ai tous les papiers. J'ai tout le dossier de ma mutuelle. Facture de garde, relevé d'eau. J'ai mes feuilles de paie, quittance de loyer. J'ai tous les papiers. J'ai tous les dossiers. Tous les permis, bateau, moto, auto, vélo.
Okay, j'ai même. Non, mais j'ai aussi le permis. Non, mais attendez. Ça fait 5 fois que je reviens. Vous n'allez pas me dire qu'il faut que je revienne encore une fois, non?